Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, notre Café des Sports qui, chaque semaine, clôt l'actualité pour ce qui est de Radio Foot International, l'actualité du football que nous débattons au quotidien avec notre duo d'artistes. Ils sont là, ils sont venus et ils vont vous dire bonjour, j'imagine. Rémi Nguono, Xavier Barré, bonjour messieurs.
Et bonjour, bonsoir. Même si Xavier Barré a eu à me fuir à partir de l'escalier, puis il a filé pour aller se réfugier dans le bureau du réfé, mais je l'ai quand même débusqué.
Mais le réfé, il n'est pas là aujourd'hui. J'espère qu'il nous écoute, bonsoir, mais il n'est pas là. Et pour départager eh bien, nos deux artistes, il y a Eric Rabessandratana. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à
tous. Bon, un balle au centre, c'est
oui,
ça.
Oui, oui, hein, je vais essayer d'être arbitre, mais ça va être dur.
Nous avons aussi eh bien, Eric Chorin qui arrive d'Auxerre, le pays de Giroud.
Bonjour,
bonjour Eric.
L'homme au bonnet.
Hein, l'homme au bonnet, exactement. Vous ne l'avez même pas vu, ça, c'est dommage. Et puis Arnaud Leyer, bonjour Arnaud.
Bonjour Annie, bonjour à
tous. Notre futur confrère et actuellement stagiaire à RFI. Dans les débats du jour, les Bleus presque prêtes pour la Coupe du Monde. Les filles, bien sûr, de l'équipe de France, elles affinent leur préparation en battant l'une des meilleures équipes mondiales, celle des Japonaises. Est-ce un bon signe pour la Coupe du Monde qui approche, ou devront-elles supporter la pression du public à domicile? C'est ce que nous verrons. Sur les pelouses européennes, plusieurs chocs notables. Le titre de champion de la Bundesliga pourrait se décider à Munich lors du Bayern Borussia Dortmund. En Italie, la Juventus pourrait être sacrée à l'issue du match face au Milan AC. En France, le PSG pourrait lui aussi devenir champion. Et en Espagne, l'Atlético pourrait chatouiller le Barça et lui compliquer la tâche sur la route du titre. Revue donc de ces quelques rendez-vous des championnats de la semaine. Enfin, l'assistance vidéo est-elle une fausse bonne idée? Alors que la VAR devrait aider les arbitres à prendre la meilleure décision, les polémiques autour de certains hommes en noir, de leur choix, de leur verdict, semblent semer plus le trouble que la satisfaction. On reparlera donc des hommes en noir et de la VAR dans Radio Foot, juste avant les cartons. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Vers Marion Torrent qui doit ajuster son centre, la tête de Bova, on sait dedans, qu'a dit l'arbitre, non, le but n'est pas validé,
si il a but,
but, il a but. But validé par l'arbitre, ouverture du score pour l'équipe de France.
Dans la fin de l'action des Japonaises, là qui vont essayer de s'infiltrer, c'est bien laissé passer avec la frappe, le premier arrêt de Sarah Boedi qui a relâché, l'égalisation pour les Japonaises.
Déviation, ça va pas sortir. Amandine Henry qui a recentré avec le sommaire.
Et c'est dedans. Eugénie Le Sommaire qui marque pour les Bleus et pour l'équipe de France.
Cascarino, Delphine Cascarino, elle va tenter la frappe. Ballon relâché.
Et il est là, le troisième. L'équipe de France mène 3-1.
Et voilà la belle victoire à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde commentée par nos confrères de M6 qui retransmettait ce match et Denis Balbir. Hier soir, les Bleus ont facilement battu donc les Japonaises finalistes de la dernière édition mondiale en 2015, championnes en 2011, championnes du monde. Score donc 3-1, de quoi rassurer sans doute l'équipe de France féminine et Eugénie Le Sommer, joueuse historique, hein, on peut le dire, Eric Chorin.
Elle est buteuse emblématique de cette équipe.
Surtout. Ouais. Et elle est en plus revenue pour marquer.
Content aujourd'hui, en plus il y a la victoire et c'était très important pour nous de jouer cette équipe parce qu'elle fait partie des meilleures équipes du monde et de gagner surtout et on va engranger de la confiance.
Un match attaqué fort, terminé fort, avec une très grosse séquence au milieu en réaction après le but égalisateur des Japonaises.
Oui, c'est vrai qu'on n'aime jamais prendre des buts et voilà, on a été un petit peu piqué à vif et on a su réagir derrière, c'est ça le plus important et c'est ça aussi qu'il faut retenir de la part de l'équipe. Je pense qu'on a fait une grosse performance collective et puis on ressort avec la victoire, on aurait pu gagner beaucoup plus largement, donc aujourd'hui on est satisfaite, même s'il y a encore des choses à corriger, mais mais c'est de bon augure pour la suite.
Elles sont satisfaites, les Bleues, Éric Chorin. Est-ce que les doutes qu'on avait pu peut-être sentir ou voir après la défaite contre l'Allemagne, qui est un des autres poids lourds de la planète football féminin, est-ce que ça a effacé ces doutes?
Bah, ça a contribué à les effacer. Il y avait déjà eu la victoire face à l'Uruguay quelques jours après la défaite 1-0 face à l'Allemagne, mais l'Uruguay était vraiment un faire-valoir face aux Françaises, qui leur avait donc passé 6 buts, avec un doublé notamment de Valérie Gauvin. Eugénie Le Sommer, elle n'était pas là lors de cette séquence, puisqu'elle s'était blessée à la tête lors d'un match de Coupe de France. Elle avait eu 7 points de suture à l'arcade sourcilière quand même, donc c'était un petit peu compliqué pour elle. Elle avait manqué ces deux matchs. L'Allemagne, surtout, ce qui avait été difficile pour les Françaises, c'est qu'elles avaient, on les avait pas vues jouer, quoi.
Elles n'avaient pas réussi à réagir.
Elles avaient totalement été annihilées par des Allemandes qui n'avaient pas forcément été transcendantes, mais très solides, très bien organisées. Et les Françaises n'avaient pas trouvé de solution, contrairement à ce qu'elles avaient fait face aux Américaines au mois de janvier, qu'elles avaient battu 3-1, les championnes du monde en titre. Là, elles avaient trouvé des solutions parce que les Américaines, par exemple, avaient bloqué le côté gauche assez fort de cette équipe de France, c'est-à-dire le côté de Eugénie Le Sommer et derrière d'Amel Majerie, la défenseur latérale gauche de l'Olympique Lyonnais, qui avait réussi à... Pardon Rémi.
Il y a un portable qui fonctionne ou un son qui...
Oui.
Qui interfère.
Un petit téléphone qui est allumé.
Merci Rémi.
Merci.
C'était voilà, vous.
Merci.
Vous avez l'air étonné, mais c'était vous.
Voilà. Il a fait la radio en direct. Ouais. Non, je disais donc le côté gauche fort de cette équipe de France qui avait été annihilée par les Américaines, et du coup les solutions étaient venues du côté droit, avec notamment Delphine Cascarino qui avait été très intéressante, qui avait offert des solutions. Là, face aux Allemandes, elles étaient vraiment totalement à court. Donc là, oui, ce match a apporté de nouveau des solutions avec une équipe qui a un profil totalement différent. Hein. On vantait son jeu court, sa capacité à passer entre les lignes, à trouver des joueuses dans les intervalles. En revanche, physiquement, pas beaucoup de densité. Sur les coups de pied arrêtés, il n'y a plus personne. Wendy Renard et ses coéquipières pouvaient attraper tous les ballons si elles le voulaient. Elles auraient pu encadrer beaucoup plus. Alors oui, elles se sont rassurées, effectivement, face à cette équipe, mais c'est le Japon, c'est l'ombre du Japon d'antan quand même. Elle l'avait dit dès la veille, Corinne Diacre en conférence de presse.
Ouais,
ce qui sépare vraiment les deux équipes, la vraie différence, c'est que, comme vous l'avez rappelé, les Japonaises, elles ont joué 3 finales de compétition majeure, dont une victoire en Coupe du Monde en 2011, finaliste en 2015, finaliste des JO aussi en 2012, alors que les Françaises, elles n'ont encore jamais dépassé les demi-finales d'une grande compétition. Après, voilà, la piqûre de rappel allemande, elle le soulignait, Eugénie Le Sommer, est une bonne chose quand même pour ces Françaises en vue du Mondial, parce que sinon, elles ont gagné 9-10 de leurs 11 derniers matchs. Donc, s'il n'y avait pas eu cette défaite face à l'Allemagne, il y aurait peut-être un trop plein de confiance qu'elles ne peuvent pas se permettre d'avoir.
Oui. Xavier, vous les avez aussi vues rassurantes et se rassurer, les Bleues.
Oui, avec les réserves qu'évoquait d'ailleurs Eric à la fin de son intervention sur l'impact physique des Japonaises. Et je trouve que cette équipe de France a été effectivement très intéressante dans l'impact physique. Elle a apporté vraiment beaucoup de force athlétique, de force collective. Face à une équipe japonaise, en plus, il y a un élément aussi, c'est peut-être le décalage horaire qui fait que certaines joueuses étaient peut-être pas en pleine possession de leurs moyens côté japonais. Donc du coup, alors c'est toujours bien de gagner, mais j'attends vraiment la Coupe du Monde, parce que là, on est encore dans ces matchs de préparation. On sait qu'il y a des états de forme qui peuvent être un peu différents.
Mais il vaut mieux quand même avoir des matchs avant qui rassurent, quoi.
Bien sûr, mais
dans les têtes.
Voilà, donc c'est une équipe de France qui est rassurante, comme l'a dit très bien Eric, mais ça demande encore confirmation.
Alors justement, les Bleues ont-elles un problème peut-être du côté des buts et du côté de la gardienne, Eric, parce que hier, la titulaire du soir, d'ailleurs c'était sa première sélection, Pauline Perromagnin, s'est blessée, ou a été blessée d'ailleurs, elle s'est fait mal au genou en fait dans une action, et elle est sortie sur civière, est-ce qu'elle sera là ou pas ?
Apparemment, d'après Corinne Diacre, si elle était touchée à la rotule, ça ne devrait pas la priver de Coupe du Monde. Après, c'était vraiment le seul essai qu'a fait Corinne Diacre hier soir, parce que finalement, elle a aligné à peu près l'équipe type qu'on pouvait imaginer, notamment avec le retour de Grijmbok en défense centrale et de Eugénie Le Sommer devant. C'est à peu près toutes les joueuses qu'on s'attendait à avoir. Bon, Valérie Gauvin, à la pointe de l'attaque, ça demandait confirmation, mais comme Marie-Antoinette Katoto, la joueuse du PSG, n'avait pas été appelée, il y avait des chances que ça soit elle qui soit alignée au moins pour démarrer le match. Elle a d'ailleurs marqué, ce but au bout de 3 minutes. Donc on ne sait pas trop si le ballon a franchi la ligne. La VAR sera là lors de la Coupe du Monde, donc ça servira peut-être à ça. Je crois que tous ceux qui étaient au stade, personne n'a pu vraiment valider ou non ce but. À part l'arbitre qui a été bien aidé, je pense, par le public de la Baie des Champs, qui a tellement sifflé quand on n'a pas accordé le but que la première chose qu'elle a faite, ça a été de le siffler. Mais on est vraiment bien incapable, pour ceux qui étaient au stade, vu qu'on n'avait pas d'écran de contrôle, de vous dire si le ballon a réellement ou non franchi la ligne. Donc le seul essai, c'était cette gardienne qui joue à Arsenal, hein, Pauline Perromanian, première sélection. C'est pour permettre d'avoir peut-être une autre joueuse que Sarah Bouadi, la joueuse de l'Olympique Lyonnais.
Qui elle est titulaire depuis bien longtemps.
Alors qui est rentrée, et quand elle est rentrée sur son premier ballon, elle n'a pas pu vraiment s'en saisir. Elle a souvent du mal à rentrer dans ses matchs. Ça s'est confirmé.
Ça lui arrive aussi à Lyon. Hein. Ça lui arrive sur certains matchs et elle est, elle est vieillissante, mais aussi dans ses prestations. C'est pour ça que ce serait pas mal d'avoir quelqu'un derrière qui commence à relever le défi.
Mais d'ailleurs, Xavier, c'est pas les postes de gardienne. On entendait hier un des anciens entraîneurs des filles, Patrice Lair, qui disait c'est peut-être un des points les plus faibles dans les équipes féminines aujourd'hui encore.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est clairement le poste où il y a des gros manques. Alors un petit peu moins en équipe de France.
Pourquoi?
Parce que Sarah Bouadi,
ça s'est amélioré.
Mais en général, parce que il y avait pas énormément de filles qui jouent au football. Donc les filles qui jouent au football, elles jouaient pour courir, pour aller de l'avant, pour marquer des buts, comme la plupart des gamins, mais des garçons. Donc du coup, dans les buts, elle est vraiment celle qui pouvait pas faire grand chose d'autre. Ça a longtemps été comme ça. Ça l'est plus maintenant. Mais du coup, avant d'avoir des gardiennes qui sont au niveau des meilleures joueuses de champ, il va falloir encore un petit peu de temps.
Ouais, les gabarits sont pas tout à fait d'ailleurs ceux des gardiens de but masculins. Hein. C'est souvent la butée de l'équipe qui est dans les buts. Hein. Donc c'est assez, ça paraît
Le gabarit, mais aussi c'est le côté physique du poste en fait, et le côté quand elles doivent sauter, c'est là où c'est vraiment flagrant.
Le
moindre tir en l'air presque, c'est but.
Ça fait but.
C'est ça qui est dramatique. Ça veut dire qu'on peut avoir n'importe quelle équipe. S'il y a un point faible dans les buts, c'est quand même dramatique. Ça peut couper les
Rémi,
les ambitions.
Est-ce que les Camerounaises ont une bonne gardienne? Les Lyons indomptables.
Je ne pense pas, mais il ne faudrait pas cependant.
C'est pas la seule sélection qui a pas beau.
Voilà. Non, je sais bien.
Cependant, il ne faut pas dire que c'est parce que les filles aiment beaucoup courir par devant et que, autrement dit, on n'aurait pas d'imbok derrière. Il y a quand même aussi des bonnes filles qui savent défendre. C'est que, en réalité, aujourd'hui, on dirait quand même que elles manquent de ce qu'on peut appeler aussi le charisme, parce que parfois, vous voyez, et celles qui ne parviennent même pas à anticiper certaines actions où il faudrait y aller. Mais par contre, j'ai dit tout simplement que ce n'était pas seulement un problème de gardien de but, mais l'équipe de France, même s'il y a eu cette victoire, moi je ne l'ai pas trouvée très rassurante, contrairement à ce que Xavier Barré est en train de dire. Moi je dis, les Japonaises ont manqué complètement d'impact physique.
C'est ce qu'il disait, que les Françaises avaient eu beaucoup d'impact physique.
Et directement, elles étaient fatiguées et elles n'étaient même pas motivées. C'est-à-dire, il fallait voir au niveau des courses, elles ne voulaient pas défendre ensemble. On dirait que c'était un petit match de gala pour elles. Moi, je n'ai pas vu un grand engagement des Japonaises qui courent souvent comme un essaim d'abeilles. Et puis, bon, c'est vrai que par rapport à la prestation, moi, j'ai quand même aussi vu que Valérie Gauvin était mieux au niveau de sa prestation, parce que au moins l'une des pièces que je voulais bien voir par devant, c'est elle que j'ai beaucoup rassurée. Mais je ne vais pas rester uniquement sur le gardien de but.
C'était la question d'Ali, monsieur Ngono.
Attends, toi tu pars du gardien de but jusqu'au latéral, jusqu'à l'équipe de France, jusqu'à l'équipe du Cameroun.
Vous étiez occupé avec votre téléphone, c'est pour ça que vous n'aviez pas eu droit à la première question. Vous avez eu droit à la deuxième.
Il était dissipé,
n'est-ce pas?
Il était dissipé, il va avoir une punition.
Bon, Eric, en tout cas, est-ce que Corinne Diacre, les Françaises vont jouer à la Méno,
lundi soir face au Danemark,
donc vous allez les suivre là-bas aussi, avec votre petite voiture rouge de RFI, mais Corinne Diacre a-t-elle, selon vous, déjà son 11 en tête pour Le 7 juin.
Elle dit qu'elle a son 11 de départ, oui,
et
effectivement.
Vous
bah, nous,
vous avez le vote.
Nous, on se pose quelques questions, mais finalement, pas tant que ça. Je pense que le fait que Marie-Antoinette Catoto n'ait pas été rappelée sur cette séquence est très, très préjudiciable pour elle, même si Wendy Renard, pour elle, disait quand même à un moment qu'elle avait sa place dans ce groupe pour aller à la Coupe du Monde.
On s'en souvient.
Là, on a quand même le sentiment que la confiance qu'elle a accordée à Valérie Gauvin depuis le début et qu'elle ne lui avait pas toujours rendue, parce que bah, c'est une joueuse, on l'a critiquée un peu à l'image d'un Olivier Giroud avec un profil un peu atypique, une joueuse assez physique, importante dans le jeu aérien qui pouvait servir de pivot. Jusqu'ici, on n'avait pas forcément vu toujours à son avantage. Et là, sur ce match, elle a été vraiment un point d'appui assez important pour ses coéquipières. Donc, elle a sans doute ses chances pour être alignée aux côtés de Le Sommer et de Diani devant.
Ouais, je pense que c'est la réalité. En fait, Catoto, elle va manquer de caractère certainement et je pense qu'elle a plus une place de réserviste qu'une place dans le groupe. Faut pas se voiler la face parce qu'en plus
Le Sommer
c'était pas là. Alors
elle a
21 ans, je vais pas dire de bêtises.
20 ans je crois.
Elle joue 20 ans. Mais sans ça elle a toutes les qualités mais il lui manque le caractère pour faire la différence au haut niveau féminin.
Puis elle n'a pas encore convaincu en équipe de France alors que dans son club
elle a eu le même comportement là sur le dernier match contre Chelsea où elle était transparente et c'est sur des matchs comme ça où elle va être jugée.
Diani
donc ça rajoute encore
Kadi Diani
qui a été décisive,
très très importante.
Exactement, et qui lui a montré vraiment le caractère qu'il fallait pour jouer au haut
niveau. Moi je me souviens que la saison dernière, il y a eu la Coupe du monde des 20 ans en France en Bretagne et l'équipe de France est allée jusqu'en demi-finale avec une Marie-Antoinette Catoto qui était catastrophique et qui d'ailleurs n'était même pas titulaire après, puisque elle avait été remplacée par Amélie qui joue à Metz.
Donc Amélie, dont le nom ne me revient pas
Amélie tout à l'heure. Voilà, donc non, mais elle avait perdu sa place dans cette équipe de France.
Donc je pense que c'est une
jeune femme qui a beaucoup de talent, mais qui doit encore progresser.
Voilà. Pour terminer sur le foot féminin, comment se préparent les Lyonnes indomptables, Rémi, pour la Coupe du Monde, puisqu'elles seront une des trois équipes africaines présentes? Elles font des matchs amicaux, elles aussi, en Afrique?
Oui, mais surtout également, il faut savoir aussi que les Lyons indomptables actuellement ont beaucoup de professionnels. Ça fait que aujourd'hui, les regroupements sont de plus en plus un peu plus difficiles. Mais au niveau de la forme, quand même, c'est une équipe qui est cohérente. C'est une équipe qui peut apporter quelque chose. C'est une équipe qui peut convaincre et c'est une équipe qui peut surprendre au niveau de la Coupe du Monde.
Troisième de la dernière CAN qui s'était déroulée au Ghana.
Oui, c'est celle qu'on attend le moins. Peut-être, mais en fait, elles sont pas passées loin de la victoire en demi-finale face au Nigeria, lors de la CAN. Elles ont énormément de joueuses qui jouent en France, dont trois à Nancy, donc Christine Mani, la capitaine de l'équipe. Alors, c'est essentiellement des joueuses qui jouent en deuxième division française, mais effectivement, il y a une certaine unité dans cette équipe, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'encadrement, puisqu'on s'est permis de changer de sélectionneur depuis la Coupe d'Afrique des Nations avant le Mondial. Un mal endémique du football africain, mais là, avant cette Coupe du Monde féminine en France...
Africain et Camerounais.
Et Camerounais, effectivement. ça va peut-être pas les aider, mais elles peuvent créer quand même une petite surprise, même si on attend un peu plus les Nigérianes qui ont l'expérience du haut niveau. C'est ce qu'a démontré hier quand même une joueuse comme Eugénie Le Sommer avec son retour, c'est que voilà, là il y a des joueuses qui jouent des matchs de haut niveau, notamment en Ligue des Champions, et quand elles arrivent à hisser leur niveau, à se hisser à ce niveau-là en équipe de France aussi, et ben ça donne quand même des choses assez performantes. Les plus belles frappes cadrées, elles étaient souvent pour elles, c'est elles qui mettaient de l'impact, ou comme une joueuse comme Amandine Henry, la capitaine, évidemment.
Eh bien, on suivra toujours les filles. On vous suivra, Eric, n'est-ce pas?
Dans ma petite voiture rouge.
Au retour de Nancy. Merci beaucoup. De Strasbourg, pardon. Merci beaucoup. Et nous continuerons, évidemment, avant la Coupe du Monde, à parler des filles.
Klasse gespielt! Ball hinter der Linie! Aus für Lewandowski! Kein Abseits! Und das ist die Führung!
Un choc au sommet de la Bundesliga. Samedi en fin d'après-midi, les deux clubs qui alternent en tête du championnat allemand se retrouvent en Bavière. Le Bayern reçoit Dortmund. Les Rouges face aux Jaunes et Noirs qui les défient depuis le début de saison. Une alternance, disons, en tête de la Bundesliga. Arnaud, c'est vrai que sur les dernières prestations, ces deux équipes sont peut-être sur une dynamique un peu différente.
Ouais, tout à fait. C'est surtout le Bayern qui est pas impérial cette saison. Ils ont fait un nul.
Ils ont mis du temps à prendre la première place dans le championnat.
Ouais, exactement.
D'ailleurs.
Ils l'ont prise en mars et puis là ils l'ont recédé à Dortmund avec un nul ce week-end à Fribourg. Et puis cette semaine, ils ont vécu un peu un match fou aussi en coupe, hein, contre une équipe de deuxième division. Ils ont dû gagner 5-4 avec un doublé de Lewandowski dans les 10 dernières minutes. Donc c'est vrai que c'est une saison un petit peu compliquée. Et puis là, c'est une finale, hein, clairement. Il reste 6 journées avec 2 points d'écart. On sait que si Dortmund gagne ce match, ça va être très très compliqué pour le Bayern d'aller chercher le titre.
Voilà, pour les rejoindre. Alors, le Borussia a seulement 2 points d'avance, mais il a repris donc sa marche en avant, hein, sur les 5 derniers matchs, en tout cas. Et il jouera, nous dit l'entraîneur de cette équipe du Borussia, Lucien Favre. Il prendra le relais et surtout essaiera de jouer sur les défauts du Bayern.
Ja, wie alle Mannschaft, sie haben auch,
comme toutes les équipes, le Bayern Munich a ses faiblesses. Toutes les équipes en ont, même la meilleure équipe du monde. Ils n'en ont pas beaucoup, c'est vrai. Ils ont beaucoup de qualités, nous le savons. Nous devrons rester concentrés sur beaucoup de choses. Par exemple, nous devrons rester focalisés sur leurs défenseurs, que ce soit à gauche ou à droite, car ils sont capables de traverser le terrain. Ils sont très dangereux. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Alors, qui sont les plus forts actuellement ?
Xavier Barret. Sur ce que j'ai vu le week-end dernier, je vous dirais Dortmund, parce qu'ils étaient tenus en échec par le Werder Bremen. Ils étaient à 0-0 à la fin du temps réglementaire et ils ont réussi grâce à Paco Alcácer, l'Espagnol prêté par le FC Barcelone, absolument. Un joueur
qui
bien.
Marque beaucoup en Allemagne, oui.
Oui, plus qu'à Barcelone, c'est vrai, mais il joue plus aussi. Oui. Et donc, il a marqué 2 buts dans le temps additionnel. Donc, on voit que cette équipe de Dortmund, qui paraissait un peu essoufflée par un automne flamboyant avec la Ligue des Champions et la Bundesliga où ils ont fait la course en tête, eh bien, elle a encore du ressort. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le match a lieu à Munich, mais le Borussia, il va avec 2 points d'avance, donc ils peuvent se contenter d'un nul pour garder la tête.
Rémi, qui est le plus fort, selon vous ? Rouges ou les jaunes et noirs ?
Je dirais Dortmund. Pourquoi ? Parce que le Bayern aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pas ses certitudes. Parce que lorsque vous essayez de regarder ses prestations, elles sont chaotiques sur le plan défensif. Vous regardez par exemple que le Bayern, en 40 matchs cette saison, est déjà à 43 buts encaissés. Ce qui est quand même extrêmement grave pour une équipe de cette envergure-là. Et là, pour le match qui arrive, Robben ne sera pas là, sans l'ombre d'un doute aussi Ribéry. Et de surcroît, on n'a pas la certitude que jusqu'à ce matin, Neuer était juste en train de faire des petits essais. Donc on n'est même pas sûr qu'il pourra bel et bien jouer. Et Lewandowski, et depuis également hier, il a une petite fièvre. On ne sait pas ce que c'est en train de, à quoi ça ressemble, parce qu'en même temps, il faut se dire, c'est l'homme qui reste le plus dangereux du Bayern, puisque d'ailleurs, contre aussi le Borussia Dortmund, parce que en 9 matchs quand même, il a planté 12 buts. Mais pour l'instant, quand on voit le Bayern, on voit les noms d'une équipe qui a dans son effectif 6 champions du monde. Quand on regarde la défense, mais on n'en revient pas par rapport à une équipe de Dortmund. Donc moi, je me dis quand même...
Vous savez qu'ils ont déjà acheté des défenseurs pour l'année prochaine.
Oui, souvent des statistiques du passé, mais il a oublié de regarder l'avenir. Vous avez raison, Annie.
Kimmich,
les gens du Bayern ont bien vu que Joachim Löw, le sélectionneur allemand, n'a pas appelé pour les derniers matchs ni Jérôme Boateng, ni Mats Hummels, ni d'ailleurs Thomas Müller, mais c'est un attaquant. Donc ça veut bien dire que cette équipe du Bayern, elle est vieillissante, voire même elle a passé l'âge de péremption pour un certain nombre de ses joueurs. Et donc, même s'ils sont champions du monde, eh bien aujourd'hui, ils sont plus dans le rythme. Donc effectivement, on est face à une équipe du Bayern qui est en bout de course.
Eric, vous avez un regard, j'imagine, sur cette défense du Bayern.
C'est un peu trompeur, parce que quand je regarde les stats, là, sur les 5 derniers matchs, le Bayern a pris plus de points que Dortmund. Ils ont pris 13 points.
Et ils sont revenus.
13 points par rapport à Dortmund, qui en a pris 12. Et sur les 10 derniers matchs, le Bayern en a pris 25 et Dortmund 21. Donc ça, c'est quand même significatif. Maintenant, c'est vrai que si on regarde que le jeu, moi, je mets une petite pièce plus sur Dortmund que sur le Bayern, parce que cette équipe du Bayern est quand même vieillissante. Alors, ils ont déjà des options pour l'année prochaine, forcément, mais par rapport au jeu, je suis plus rassuré par le jeu de Dortmund que le Bayern. Maintenant, c'est à domicile, donc le Bayern a quand même aussi sa chance.
Xavier, qui est ce Sancho ? du côté de Dortmund. On remarque finalement les grandes équipes européennes ont tout un petit 19 ans qui apparaît et qu'on met titulaire ou qui joue beaucoup. Pense à Vinicius, on pense presque à Mbappé ou du côté aussi de Keane, du côté de la Juve. Et là, Sancho, qui comme son nom ne l'indique pas, est un Anglais.
Il n'est ni allemand ni espagnol. Mais dans ce registre, ils en ont plein des jeunes à Dortmund. Ils savent très bien les former et surtout les faire monter. Ils ont également Christian Pulisic, le jeune américain qui ira lui à Chelsea la saison prochaine. Jason Sancho, lui, il est anglais et il est l'objet d'une surenchère incroyable de différents clubs de première ligue qui veulent le récupérer parce que le problème des jeunes anglais, on a eu l'occasion de l'évoquer déjà dans votre émission Annie à plusieurs reprises, c'est qu'ils sont champions du monde des 20 ans, ils sont champions du monde des 17 ans, ils sont champions d'Europe des. Mais ils jouent pas dans leur championnat parce qu'il y a trop de joueurs étrangers confirmés qui occupent les postes. Donc ils sont obligés d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et donc ils vont maintenant en Bundesliga. Et c'est le cas de ce jeune Jadon Sancho, qui est bourré de talent, qui va très vite et qui justement s'intègre bien dans le système de jeu de Dortmund, où les attaquants de côté sont extrêmement sollicités. Donc il y a Sancho, il y a Pulisic notamment, et qui prennent les espaces et qui ensuite peuvent centrer pour Paco Alcacer ou Mario Götze, si c'est lui qui joue en pointe, ce qui arrive aussi parfois, ou Reus
qui est également joué, voilà. Ce sera Götze.
Oui, ce sera l'un ou l'autre.
Pour l'instant,
souvent les deux jouent.
Pour l'instant, Paco Alcacer est malade, donc c'est bien parti pour Götze.
Que ce soit Götze. En Italie, c'est la vieille dame qui recevra à domicile le Milan AC, alors que les Rossoneri joueront eux des espoirs, leurs espoirs européens, en tout cas de figurer dans le top 4 qui donne accès à la Ligue des Champions en Italie. La Juventus, elle, pendant ce temps-là, eh bien, elle pourrait décrocher son 8e sacre consécutif, un 8e scudetto consécutif. Alors, est-ce à la fois surprenant et loin d'être anecdotique, Eric, quand on aligne comme ça les titres, il faut être toujours évidemment au top. Ça sera, ils en ont déjà 34 hein, dans leur étagère qui a dû doit s'agrandir, j'imagine, à chaque fois ou s'allonger. Mais un 8e scudetto, est-ce que c'est banal finalement quand on est joueur de la Juve, on se dit bon, je vais dans l'équipe qui va finir championne d'Italie.
Ben normalement, quand on vient de l'extérieur, on se dit oui, je m'inscris dans l'équipe qui va gagner le championnat et forcément, quand vous gagnez autant de championnats et surtout d'affilée, ça veut dire que vous avez des vrais compétiteurs et vous avez une équipe qui tourne bien. Alors en plus, quand vous rajoutez Ronaldo, forcément, ça vous donne encore plus de chances offensives. Et quand en plus il tourne bien, voilà, vous avez, il y a pas de risque presque à s'inquiéter pour savoir s'ils vont être champions, même si autour ça commence un peu à tourner un peu mieux, mais sinon ils n'ont pas réellement de concurrents pour l'instant.
Ils avaient eu un début de championnat un tout petit peu poussif et puis très rapidement ils se sont défaits de n'importe quel poursuivant.
Ils ont très vite pris le large cette saison, contrairement à la saison dernière où en revanche Naples avait tenu le rythme jusqu'à Noël à peu près avant de s'effondrer comme presque chaque année. Donc là on a une Juve effectivement très largement souveraine, mais aujourd'hui l'ambition de la Juventus c'est un peu comme le Paris Saint-Germain en France, voir le Bayern, c'est pas le cas cette année parce que Dortmund s'accroche, mais voir le Bayern en Allemagne, c'est des clubs qui sont tellement au-dessus de leurs rivaux que être champion, c'est une obligation pour eux.
Qui ont vraiment les meilleurs joueurs en plus du pays pratiquement.
Qui ratissent, oui, effectivement, les principaux internationaux de leur pays. Et effectivement, du coup, leur ambition, elle est systématiquement c'est l'Europe, c'est la Ligue des Champions. Donc pour la Juve, mais ils sont encore en piste, ça a été compliqué contre l'Atlético de Madrid, mais ils sont passés. Pour le Bayern, par exemple, c'est fini. Et pour le PSG aussi. Donc la Juve, des trois champions qui le sont presque chaque année, c'est celui, le seul, qui est encore en piste pour un sacre européen.
Arnaud, pour ce qui est du Milan AC, c'est peut-être un peu aussi la chance de rester finalement dans ce top 4 européen, au moins en faisant un match nul.
Ah oui, il faut qu'ils s'accrochent à leur quatrième place là, parce qu'ils ont vu, enfin ils ont pris un seul point sur les trois derniers matchs, donc on parlait de dynamique tout à l'heure, c'est vraiment catastrophique entre guillemets du côté de Milan, et puis voilà Atalanta revenir à un point qui a gagné hier, et même la Lazio qui a 4 points mais qui a un match de moins, donc voilà, ça fait deux adversaires qui reviennent, qui sont proches. Il faut absolument que le Milan prenne des points, bon, même si contre la Juve effectivement on sait que ça va être
c'est toujours compliqué.
Très, très compliqué, ouais.
Rémi, est-ce que quand on va jouer à la Juve et qu'on est Milan, même Milan AC, même avec une belle histoire, on se demande à quelle sauce on va être mangé?
Pas absolument Absolument, mais le Milan de maintenant n'est pas peut-être capable de rivaliser avec la Juve, mais je ne voudrais pas cependant qu'on donne l'impression que le championnat italien ressemble au championnat français, la Serie A.
Cristiano, non, apparemment.
Non.
Il se réserve pour l'Ajax.
Oui, parce que le championnat italien, il faut se dire que contrairement au Paris Saint-Germain, qui seul a un budget que les autres clubs français n'ont pas, en Italie, il faut se dire que les championnats, c'est-à-dire que les clubs italiens, quand vous regardez, quatre figures dans le top 20 de ce qu'on appelle les effectifs les plus chers de l'Europe. Donc, il ne faut pas croire que la Juve a les meilleurs joueurs et que les autres sont des faire-valoir. Bien au contraire, c'est très, très compliqué. Parce que d'ailleurs, je devrais dire que les matchs de la Juve, c'est gagner avec beaucoup de sueur. Ce n'est pas en marchant comme le Paris Saint-Germain parfois qui attend dans les 15 dernières minutes pour...
Non.
Voilà. Ouais. Là, vous avez quand même... Vous avez quand même, au niveau de la Serie A, cette saison, ils ont dépensé plus d'un milliard pour le mercato, c'est-à-dire que ils viennent juste derrière les Anglais. Et quand vous regardez ça, vous avez quand même une équipe comme l'Inter. L'Inter qui a quand même un budget de plus de 600 millions d'euros, un effectif de 600 millions d'euros. Vous avez par exemple Naples qui a 551 millions. Vous avez même le Milan à 400
millions. Il risque pas d'avoir le prix, le Scudetto.
Donc, je voudrais donc que Xavier Barret ne puisse pas nous dire que non, c'est comme choc en eux, bon voilà, on vient, on se balade et tout. Non, en réalité, la Juve est une équipe sérieuse, ambitieuse, évidemment. Et c'est une équipe qui a du répondant, qui a des adversaires dignes de son nom, contrairement au Paris Saint-Germain.
Oui, mais là, tu compares avec le Paris Saint-Germain, mais il y a même pas de comparaison parce que la Juve, elle a une organisation de recrutement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dépenser des 70 millions pour rien. C'est-à-dire que le jour où elle dépense, non mais voilà, justement, l'intelligence d'aller recruter un Matuidi à 30 millions d'euros, alors que le Paris Saint-Germain va recruter un Paredes à 45, alors que moi je garde le Matuidi à 30 millions d'euros. Non mais c'est ça la différence, c'est qu'il y a une organisation dans le recrutement et il y a un projet sportif. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain nous a pas montré son projet sportif.
Et je voudrais quand même dire
la victoire de la Ligue des Champions, c'est pas un projet sportif, c'est le projet de tous les grands clubs. Ouais. Ça, c'est pas un projet sportif. Le projet sportif, c'est de soit s'appuyer sur les jeunes, soit de développer une équipe de moins de 21 ans, de machin, de n'importe quoi. Il y a plein de projets sportifs. Là, pour l'instant, on n'en a pas.
Je voulais seulement signaler d'ailleurs à Xavier Barret qui veut rebondir que quand vous regardez AS Roma battre le Barça, arrive en demi-finale de Ligue des Champions, l'AS Roma, j'ai dit bien l'AS Roma, c'est-à-dire que quand vous voyez des équipes de
c'était
cette envergure-là,
ce
n'était pas la plus grande équipe. Donc, il ne faut pas continuer vouloir abaisser le championnat italien.
Pas du tout. On le fait pas.
Il faut plutôt féliciter la Juve qui réussit à creuser un écart considérable parce que actuellement ils n'ont perdu que 9 points.
Je sais pas
Xavier, voulais juste vous poser une question. Est-ce que aussi dans cette équipe sérieuse, comme disait Rémi, il y a aussi un super entraîneur? Parce que Massimiliano Allegri, il est là depuis plusieurs saisons. Il a aidé recherche consécutive de titres.
Clairement, il a pris la suite d'Antonio Conte en 2014. Ouais. Antonio Conte qui avait donné les premiers titres de cette série.
Il pourrait être le nouveau Ferguson à la Juve.
Oui, alors ça, faut voir, parce qu'en même temps, on a parlé de Zidane pour le remplacer cet été, jusqu'à ce que Zidane finalement revienne
sur
le banc du Real
même.
Madrid. Non, je suis pas certain. Je pense qu'Allegri, effectivement, ça fait 5 ans qu'il est maintenant à la Juve. On a parlé déjà la saison dernière de lui aussi
des acteurs majeurs de cette réussite.
Bien sûr, mais c'est comme le disait Eric Rabessandratana, c'est pas que le coach. La Juventus, c'est une énorme entreprise. C'est un club qui est super bien organisé avec le directeur sportif, avec des staffs de recrutement, avec un service marketing.
Mais aussi avec un
super entraîneur. Avec aussi un super entraîneur qui doit s'intégrer dans ce système-là. C'est pas l'entraîneur qui vient par-dessus le club, c'est l'entraîneur qui s'intègre dans le mode de fonctionnement.
Et on se souvient que comme il venait de Milan, ça avait été un peu mal pris au départ.
Il venait pas en ligne droite de Milan, il venait après une année sabbatique, mais effectivement, ça avait quand même fait couler de l'encre.
Oui, effectivement. En France, Eric, le PSG... Le PSG pourrait être sacré durant le week-end, mais alors il y a une équation à remplir, n'est-ce pas?
Ouais, il y a juste, alors faudrait que Lille ne gagne pas.
Du côté de Reims.
Voilà, ce qui est tout à fait possible, parce que Reims, après ce 4-0 pris dans la figure, est une équipe quand même intéressante.
Un peu
à
envie de se venger.
Ouais, aura certainement envie de vendre cher sa peau. Donc,
dans la ville des Sacres.
On peut imaginer qu'ils vont peut-être éventuellement accrocher. Même je crois, un match nul suffirait pour les Parisiens. De toute façon, si ça ne se fait pas ce week-end contre Strasbourg.
Mais il faut que les Parisiens gagnent.
Ils gagnent contre Strasbourg.
Au Parc des Princes contre
Strasbourg. Mais vu ce qui s'est passé, la blessure de Neymar, je pense qu'ils vont être ultra motivés. Mais ça, c'est une parenthèse. De toute façon, si ça ne se fait pas ce week-end, il y a le choc Lille-Paris-Saint-Germain le week-end prochain qui devrait annoncer les choses.
Vous pensez que ça se fera plus ce week-end ou le week-end d'après?
Lille est une bonne équipe quand même, donc je sais ils sont capables de faire un résultat à Reims. Hein, c'est pas comme si je.
Mais
je pense que j'espère que ça se fera sur le Lille Paris Saint-Germain. Ce sera encore plus sympa.
Ce sera une belle finale effectivement, mais il faut juste rappeler que Lille est allé gagner à Nantes 3-2 après avoir été mené 2-0. Ça, donc c'est une équipe qui a un vrai potentiel, qui joue très juste, qui est super motivé. Je suis pas certain.
Il y a Lyon qui pousse derrière. Donc,
Je suis pas certain effectivement que le PSG soit sacré dimanche.
Non, je pense pas non plus.
Mais bon, ils le seront la semaine suivante.
Oui, c'est ça.
Rémi, ce week-end ou le week-end d'après pour le PSG?
Ce week-end, mais ils peuvent toujours un peu ralentir pour que Neymar soit de la fête, parce que Neymar est arrivé, il a commencé un peu à courir. Non, il a commencé à courir. Là.
Oui, il sera prêt à la fin du mois.
Donc on peut faire qu'il arrive au parc et comme ça, ils font semblant de tenir d'abord un petit suspense là.
Ils vont l'attendre. Pour terminer juste, en Espagne, les Colchoneros pourraient-ils menacer le Barça sur leur ligne droite qu'ils sont en route pour le titre, n'est-ce pas? Mais ils ont 8 points d'avance sur l'Atlético, les Blaugrana. Est-ce que l'Atlético Madrid peut aller embêter Barcelone dans son Camp Nou, Rémi?
Oui. Pourquoi? Oui, Atlético peut bien embêter ce Barça. De toutes les façons, on a aussi vu que Barça
qui ont été sortis de la Ligue des Champions.
Aujourd'hui, Atlético sait très bien que le Barça a aussi des
faiblesses, comme disait tout à l'heure Lucien Favre.
Beaucoup de faiblesses. Et d'ailleurs, on a pu le vérifier lors du dernier match.
Mais ils ont
quand même. Donc, on se dit quand même. Et d'ailleurs, je crois que Atlético parvient souvent à faire de meilleurs résultats, même au Camp Nou, qu'à domicile. Donc, moi, je me dis que, avec cette équipe de Atlético, qui peut-être aura maximum 30% de possession, parce que c'est généralement vers ça qu'ils tournent.
Mais ça les dérange pas.
Ça les dérange pas. S'ils jouent avec leur pressing, compact comme ils sont, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité, parce que le Barça également a peur de perdre quelques joueurs actuellement, surtout que la Ligue des Champions est là, je crois qu'ils peuvent créer de sérieux problèmes à ce Barça qui déjà pourrait être privé de certains éléments qui vont au charbon. Donc c'est pour ça que je dis que Atlético peut bien, voulant surtout aussi.
Vous allez faire des cauchemars pour Trafé qui n'est pas là.
Quand il n'a pas le Real à défendre, il se rattrape aux branches avec l'Atlético pour essayer de diminuer les mérites du Barça qui a réussi un incroyable 4-4 sur la pelouse de Villarreal avec deux buts dans les arrêts de jeu de Messi sur coup franc et de Suarez après un corner. Donc ce Barça-là, je pense, ne craint pas grand monde cette saison.
Ouais.
Maintenant, je suis curieux de voir effectivement ce qui va se passer sur la pelouse du Camp Nou pour la réception de Antoine Griezmann, parce qu'il faut rappeler quand même que Griezmann arrive à la tête de l'Atlético et c'est la première fois qu'il va jouer au Camp Nou depuis sa fameuse décision qui avait fait l'objet de cette mise en scène vidéo télévisée pour dire voilà, finalement je reste à l'Atlético alors qu'il était attendu à Barcelone et que ce film là a été produit par la société de Gérard Piqué, défenseur du Barça. Donc il y a un petit une espèce de petite histoire dans l'histoire qui donne encore plus piquant ce Barça
et Atlético. Chaque fois avant qu'ils ne reçoivent toujours le même Atlético, on commence à faire les mêmes choses. Et bien maintenant il veut repartir au Barça. C'est une façon toujours de le déstabiliser. Depuis 2014,
c'est
une façon de déstabiliser, l'information a été relancée par l'équipe à la suite d'une information provenant de l'entourage de Griezmann.
Allez, quelques instants pour parler d'arbitrage.
Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a à l'image?
Il y a une aide, mais l'arbitre sera toujours au début de l'histoire et à la fin de l'histoire. On est bien dans de l'assistance vidéo et certainement pas dans de l'arbitrage vidéo.
Non, il n'y a pas but. Le but n'est pas validé.
On croyait, on espérait, on osait croire que la VAR serait la solution à tous les maux, toutes les décisions mauvaises prises par les arbitres. La Coupe du Monde en Russie semblait même le montrer, à part quelques coups de sifflet après visionnage qui avaient surpris. Mais ces dernières semaines, en Ligue des Champions, en Championnat ou en Coupe de France, notamment, les polémiques enflent. Cette semaine, ce furent lors de deux soirées de demi-finale de Coupe de France, où les choix des arbitres ont provoqué des débats. La rencontre, Lyon-Rennes et le pénalty sifflé sur André pour avoir été touché par le ballon au bras, ce qui avait fait dire à nos confrères de Cahiers du football des mains à couper, disait-il, pour les problèmes que ça avait engendré. Et puis, eh bien, il y a eu la rencontre Paris-Nantes où un pénalty n'a pas été sifflé sur Thiago Silva, peut-être même aussi sur Verratti. Et ça aurait donné ensuite lieu à un échange entre le Canari, Valentin Rongier, et l'arbitre.
Dès qu'il n'a pas sifflé le penalty sur Khalifa, qu'à la mi-temps, je lui redemande s'il a vu les images et qu'il me dit que pour lui, il n'y a pas penalty, je trouve ça dommage. Je vais même te dire ce qu'il m'a dit, parce que même si j'apprécie monsieur le Texier, je trouve que ce qu'il m'a dit n'est pas correct. Il m'a dit, pour moi, Thiago Silva n'a pas d'intention de faire faute. Et je lui dis, mais est-ce que si c'est pour Paris, vous sifflez? Et là, il me dit, monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions n'ont pas les mêmes conséquences. Quand un arbitre te dit ça, tu comprends que ça va être difficile et que la fin du match va être longue.
Effectivement, la fin du match a dû être longue pour Valentin Rongier. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce qui s'est passé? Parce que depuis, évidemment, le chef de l'arbitrage à la LFP, qui s'appelle Gary Bian, a dit qu'il y a eu incompréhension entre les deux hommes.
Moi, je comprends pas déjà qu'un arbitre puisse tenir des propos comme ça sur un terrain, sur un joueur. Alors que le match, il est à la moitié du jeu, j'allais dire. C'est quand même dramatique. Imaginez la frustration du joueur. C'est pas normal de toute façon. Mais ce que ça met en lumière surtout, c'est que c'est peut-être pas une histoire de VAR. C'est peut-être une histoire d'interprétation de par les hommes en noir de la VAR. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que un coup on regarde, un coup on regarde pas, un coup et c'est ça qui met le trouble peut-être dans les esprits des gens, qui fait que on se dit mais pourquoi il a pas regardé alors qu'on a une aide supplémentaire. Alors c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire.
Est-ce que ça a troublé un peu finalement
le problème, c'est que ça gêne tout ça. Ça gêne le j'allais dire tous les gens qui regardent autour et se disent voilà, maintenant on a la VAR, donc dès l'instant qu'il va y avoir un problème, on va regarder la VAR. Sauf que l'arbitre ne l'utilise pas tout le temps, alors à bon escient ou à mauvais escient, mais c'est ça qui transforme. Alors, et des fois, quand il regarde la VAR, et en plus il prend une décision qui n'est pas adaptée forcément à ce qu'il a vu, ou ce que tout le monde a vu, c'est là où ça rajoute encore plus d'énervement par rapport aux spectateurs ou au club ou aux joueurs.
Nos camarades des Cahiers du football disent le malaise tient d'une part au fait que les arbitres vidéo vont chercher sur les images une faute souvent passée inaperçue, parfois même non réclamée. On se souvient de Thibaut Courtois dans ce match Ajax-Real où personne n'avait vu ou n'avait réclamé sur le terrain un pénalty qui vient, un but annulé ensuite.
Un but annulé, oui, absolument.
Mais Xavier, est-ce que finalement les arbitres du coup se retrouvent en porte-à-faux?
Ben moi je pense que ce qu'a dit Eric Rabré-Sandratana est tout à fait juste, c'est ce que j'allais dire.
On dit Eric Rabé, ici. Vous pouvez faire des économies.
J'accepte. On met sur le dos de la VAR effectivement les décisions. Le pouvoir de décision des arbitres. Mmh. Et là vous l'avez bien mis dans le jingle de présentation de la rubrique. C'est l'arbitre qui reste le maître du jeu et la FIFA a tenu à ce que ça se passe comme ça. Donc, si l'arbitre ne consulte pas l'assistance vidéo, eh bien, il retient sa décision. Alors, effectivement, parfois, c'est incompréhensible pour le public. Mais est-ce qu'il faut, à chaque fois qu'il y a un accrochage, consulter l'assistance vidéo? On a déjà des matchs qui se rallongent de plus en plus.
Mais ce qu'il croit avoir compris, c'est que aussi, on va plutôt pencher du côté
des plus forts.
Ouais. Oui, mais ça a toujours été. Assistance vidéo ou pas. Et ce que dit Valentin Rongier, je le comprends d'autant plus que étant un fan des Canaries, et je suis vert à chaque fois qu'il joue au parc, parce qu'ils veulent
jaune.
Oui, parce que justement, on serait jaune s'ils gagnaient, mais régulièrement, ils sont à voir, c'est
vert
vrai.
Vert de rage bon, ou jaune malade. Ouais.
Donc, non, mais effectivement, il y a un problème d'utilisation de l'assistance vidéo, mais je pense que ce qu'on voit dans les championnats, on le voit moins au niveau de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde, parce qu'on a les meilleurs arbitres.
C'est
qui
vrai.
Sont plus
je
entraînés.
Suis d'accord avec toi,
alors que là, sur les championnats,
c'est un problème aussi d'arbitrage, attention.
D'habitude, c'est la première saison en France, donc il y a des arbitres qui découvrent cette technologie maintenant, alors que les arbitres internationaux, ils ont été surperformés avant la Coupe du Monde.
Et résultat, il y a des entraîneurs, qui se posent des questions, qui sont un peu dans le doute. Écoutons Julien Stéphan, justement, après ces deux matchs.
Je comprends pas pourquoi, sur les situations litigieuses, il y en a une sur le pénalty mardi, il y en a eu une autre sur le pénalty non sifflé pour Koulibaly hier. Pourquoi là, on n'y va pas? Et puis pourquoi sur le pénalty pour Paris avec la main de Palois, pourquoi là, on y va? Là, je dois vous avouer que je comprends pas. Donc, peut-être que les arbitres seront en capacité de nous expliquer ça plus tard. Il y a certainement des raisons. Mais aujourd'hui, on a de l'incompréhension par rapport à ces situations-là, qui ont tourné deux fois en faveur des équipes supposées être les plus fortes.
Julien Stéphan, entraîneur de Rennes, qui n'est pas supposé être une des équipes les plus fortes.
Ah, ils sont finalement.
Non, mais il est malin, Julien Stéphan, parce qu'il va retrouver le PSG en finale, et déjà, là, il met un petit coup de pression sur l'arbitrage de la finale.
Je ne sais pas si ça changera quelque
chose. Rémi.
On verra. Ouais,
on verra. Non, mais vous avez l'air sûr que.
Non, pas du tout,
PSG
c'est pas pour ça. Je dis simplement que ça ne changera rien à l'arbitrage.
Rémi, est-ce que vous comprenez que l'entraîneur ne comprenne pas un peu où on en est?
Déjà, je ne comprends pas si on dit la VAR ou le VAR.
Et si on dit l'assistance vidéo. Donc, nous, on a choisi là.
L'assistance vidéo et puis
R. Sur RFI, on a choisi là.
R représente quoi alors?
On s'en fiche.
Voilà, ça c'est en anglais. Donc, on est.
Donc,
déjà, on ne s'entend même pas sur le là.
Entendez-moi, Rémi.
Deuxième des choses, lorsque vous dites aujourd'hui que, bon, voilà, il y a certaines petites équipes qui se plaignent, moi, à la Coupe du Monde. Contrairement à ce que Xavier Barré dit, qui a les meilleurs arbitres. À la Coupe du Monde, j'ai vu comment est-ce que le VAR ou la VAR, utilisons ce que nous voulons, a eu à varer justement le Nigeria. Donc, le même pénalty qu'on accordait à la France, on ne l'a pas accordé au Nigeria. Donc, ça, c'est les interprétations. Maintenant, quand on essaie de regarder les interprétations, bien évidemment, c'est ce que je dis aujourd'hui. Pourquoi est-ce que on ne peut jamais aussi parler même de ces arbitres, de leur caution morale et surtout de leur probité morale? Parce que quand c'est en Afrique, on dit c'est un arbitre qui a vendu le match. C'est l'arbitre qui a été acheté. La preuve, c'est que l'arbitre du match.
On parle par rapport au système VAR, c'est-à-dire on parle par rapport à l'assistance.
L'arbitre reste au centre de la décision.
Puisque j'ai déjà vu des arbitres, quand l'arbitre refuse d'aller consulter les images, est-ce qu'on ne peut pas dire que lui-même il est de mauvaise foi et qu'il aurait été peut-être vendu, qu'il aurait été acheté? C'est pour ça que je veux que les mêmes vocabulaires qu'on utilise en Afrique.
Nous devons
aussi les utiliser ici. Donc maintenant, quant à ce qui concerne la VAR, je suis absolument d'accord qu'on continue avec la VAR parce que c'est mieux qu'avant, parce qu'au moins, on peut voir un certain nombre de choses. Les erreurs sont beaucoup plus réduites. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut marcher en boitant que d'être assis paralysé.
Mais Rémi, rassurez-vous, il y aura la VAR à la Cannes en 2019 et en Égypte. Donc, il n'y aura pas de problème. Allez, session carton, vite fait.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Honneur à Arnaud Leyer. Votre carton, quelle couleur et à qui?
Eh ben moi, c'est un carton vert. On parlait des pépites de Dortmund tout à l'heure. Je voulais en mettre une pépite qui est Alexander Isak, un jeune Suédois d'origine érythréenne. Prêté à Villers, mais il s'éclate. Il a mis 10 buts en 10 matchs pour le moment, ce qui est assez énorme, dont un triplé de penalty la semaine dernière. Donc, vu qu'il est suédois, il est déjà fiché comme le nouvel Ibrahimovic, ça on verra. Mais voilà, c'est certainement un nom à retenir. Et voilà, je voulais lui mettre un petit carton.
Très intéressant. Eric Rabé.
Alors moi, j'ai un double carton rouge. Il y en a un de la part de Mohamed Hané. Qui met un carton rouge aux supporters de Cagliari qui tendent à noircir le quotidien des personnes de couleur, Keane et Blaise Matuidi. Et je rebondis en même temps pour le mien de carton rouge pour Bonucci, qui dans la même histoire va vous dire que c'est 50-50 la responsabilité, ce qui est quand même aberrant et ce qui est quand même scandaleux pour un joueur de la même équipe. Des joueurs qui ont été
dramatique. Il a notamment été taclé par Balotelli. Xavier.
Moi, carton rouge aussi, carton rouge à Jean-Michel Aulas au sujet de sa communication sur le renouvellement, la prolongation de son entraîneur Bruno Genesio.
Il
nous annonce une conférence de presse le mardi en oubliant qu'il y avait un match de Coupe de France et que ce match effectivement il fallait le jouer et le gagner. Et donc du coup il prolonge pas son entraîneur et on sent même maintenant que c'est presque fini. Communication catastrophique.
On en a beaucoup parlé. Rémi.
Carton
10 secondes.
Carton rouge de Tijani Mukaela de Mafash Fezugamingono à la Fédération italienne de football qui ne prend pas de mesures pour éradiquer indiquer finalement ce racisme là, tout comme Bonucci, on simplifie tout et finalement c'est comme ça.
Très bien Rémi. Radio Foot met un carton vert à Pelé, un carton d'encouragement, de vœux de bon rétablissement au roi Pelé, le joueur brésilien de 78 ans venu à Paris pour une opération de marketing et qui depuis jeudi est hospitalisé. Il y est toujours Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. Bon rétablissement. Merci à tous. Merci à David Finzel. Merci à Laurent Salerno, à Thibaut Baduel. Et on se dit, eh bien, à bientôt.